ministériel.
Sur les toits, sur les toitures.
Oui, enfin toitures, ombrières, tout ce qui est photovoltaïque ne serait plus subventionnable, que ce soit par l'État, la région ou les autres collectivités. Donc même la préfecture de Vaucluse est dans un état de perplexité extrême et essaye d'avoir des renseignements, des précisions là-dessus, parce que on est en plus complètement à contre-courant de la tendance actuelle et en contradiction complète avec les discours gouvernementaux.
Ça peut changer.
Espérons.
Il y a des questions ? Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'ai quatre défauts, je suis un peu têtu, c'est tout. Alors, toujours, vous m'avez raconté, la dernière fois que je vous ai posé la question, combien avait coûté exactement la place des faits libres, qui est d'ailleurs, au demeurant, très jolie. Hein. Je suis content que j'y passe devant, je vous félicite. Et vous m'avez sorti un chiffre qui était aux alentours d'un million et quelques. Effectivement, là, vous reprenez un chiffre de 1 109 000, enfin, en gros. Par contre, vous avez jamais parlé des investissements qui ont lieu, disons, non, d'abord des achats des maisons. Et moi, je me suis amusé à faire un chiffre rapide, mais non, mais pour 500 000 euros. Hein ?
Ça m'étonnerait.
Écoutez, la précédente municipalité a acheté une pour 110 000 euros. Je me suis renseigné, il y en avait 4. Allez, mettons à 100 000, ça fait au moins 440 000. Ah, la deuxième, 205. Moi, je n'ai pas le chiffre. Donc, ce qui fait déjà, si on ajoute 500 000, 1,6 million. Et il y a encore 400 000 de rénovation des bâtiments à l'intérieur. Donc, on arrive à 2 millions. C'est le chiffre que j'avais proposé au départ, que vous n'avez pas voulu.
Oui, mais c'est parce que là, vous confondez deux sujets. L'aménagement extérieur de la place des faits libres. Et ensuite, oui, l'aménagement intérieur des bâtiments, dont l'un est...
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'ai compris qu'effectivement, il y avait deux choses différentes. Mais c'est un investissement. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est que c'est un investissement qui a coûté à la commune 2 millions d'euros.
Et qui va rapporter des recettes de fonctionnement, justement.
Oui, bien sûr.
Ça fait partie des pistes que nous explorons.
Mais j'ai fait le compte, pour l'instant, ça va être un petit moment. Il faudra un certain temps pour l'amortir.
Ah ben oui, il faut être patient.
Bon, en fait, c'est tout simplement que j'aurais aimé que vous le précisiez l'autre fois.
Mais en plus, on est financé à 80%, et vous savez qu'en matière d'investissement, la commune se voit reverser la TVA qu'elle a déboursée par l'intermédiaire du FCT.
Ça, c'est autre chose. Ça, c'est
voilà.
Autre chose. Oui, d'accord.
Mais c'est... Et je ne sais pas combien c'est. Je
300 000.
Crois que c'est 350 000. 350 000.
Bon, mais c'est tout. On va clore le chapitre.
Donc 350 000 de fonds de compensation de la TVA plus les subventions, on obtient 900 000 euros pour un coût total de 1 100 000.
On refera les calculs en détail parce qu'on va se noyer là.
Si vous voulez. Hein, voilà, 900 000 euros que nous n'avons pas à débourser sur un total de 1 100 000, c'est quand même pas si mal.
Non, là vous faites un calcul pour rapide. Vous êtes gentil, mais là vous essayez de m'embrouiller. Là. Bon, allez, on en discutera une autre fois parce que là vous.
Autant que vous voulez.
Bon, une dernière question parce que c'est ça me tient à cœur parce que c'est un peu mon enfance, enfin ma jeunesse, du moins. On en est où, le serpent noir ?
Alors, le serpent noir, c'est une question très intéressante. Effectivement, c'est un site qui tient à cœur pour beaucoup de Camaretois, à beaucoup de Camaretois. C'est en bonne voie.
C'est-à-dire
que nous sommes en passe de enfin acquérir la maîtrise foncière du site du serpent noir. Enfin.
Et la virgule ? Non, je... Quoi ? Non. Moi, je suis pas attaqué comme ça. Monsieur le maire, il a dit que les bâtiments là-bas c'était une verrue. Peut-être
ça, oui.
C'est un peu une verrue aussi.
Oui, reconnaissez que la responsabilité de cette verrue-ci par rapport à la verrue de là-bas, il y a beaucoup à dire.
Je chipote.
Non, on chipote pas.
Les mots sont les mots.
On chipote pas.
Moi, je voulais dire, je suis quelqu'un de parole, quand tu m'as dit quelque chose, je m'en rappelle. Bon, allez, on continue ?
On continue.
On n'a pas que ça à faire. Attendez.
Bon, un petit mot sur...
Monsieur Savin.
Oui, sur la section d'investissement. Je vois que pour la reprise de la voirie, vous annoncez 90 000 euros. Je vous donnerai un chiffre. Hier, par exemple, je faisais du vélo. Je suis rentré par la rue Jules Ferry. Devant moi, il y avait un camion. Et j'ai voulu serrer à droite. J'ai pas pu. Il a fallu que je m'arrête parce que la rue, elle est pourrie. Donc, je pense qu'il y a des améliorations à faire sur la voirie à Camaret.
Alors, cette voirie, Jules Ferry, il me semble que c'est l'équipe précédente qui l'a qui l'a refaite à l'époque. Oui, c'est pas si vieux, donc. Donc, vous comprendrez que quelque chose qui est relativement récent, on prenne un peu de temps avant de le refaire.
Ouais, enfin, en attendant, j'étais obligé de mettre pied à terre.
Non, c'est le mandat de Mme Thibault, la rue Jules Ferry. Oui. Il y a pas mal de choses. Pour en revenir à l'équipe de Mme Thibault, c'est pas pour lui taper dessus, il y a des choses qui ont été bien faites. Il y a des choses qui ont été beaucoup moins bien faites, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'on va les refaire tout de suite. Quelque chose qui est neuf, même si c'est mal fait, ça va quand même vieillir un petit peu, parce que on a beaucoup de choses à faire.
Sans vouloir manger des vélos, mais pas comme monsieur, vous savez, mais il y a aussi le chemin d'Avignon. Qui a été fait il y a très longtemps et qui est pourtant plus
d'urgence. Alors le chemin d'Avignon, c'est un problème ardu. Le problème, c'est que c'est une voie qui sert un peu d'itinéraire bis, alors qu'en réalité, il s'agit tout simplement d'un chemin rural. Mais comme c'est un itinéraire bis pour beaucoup de Camaretois, il s'abîme beaucoup plus vite qu'une voie qui serait normalement une voie d'itinéraire bis. Mais voilà, c'est un chemin un petit peu détourné, c'est un espèce de raccourci que beaucoup connaissent, et du coup, voilà, il s'abîme beaucoup plus vite. Si on le refait, les gens vont encore plus venir, rouler encore plus vite. C'est compliqué. On a beaucoup réfléchi. En plus, s'agissant d'un chemin rural, on n'a pas hors agglomération, on n'a pas forcément le droit de faire ce qu'on veut là-dessus en termes d'aménagement pour faire ralentir les gens. Donc, à moins de faire camper la police municipale jour et nuit, c'est vraiment compliqué le chemin d'Avignon. Là aussi, on réfléchit à des solutions, mais c'est peut-être pas pour tout de suite, parce que ça sera très très coûteux.
Je peux vous donner une méthode?
Oui, je suis tout oui.
Vous faites des travaux.
Oui.
Vous mettez des travaux, et comme ça, tout le monde ralentit. Ça, c'est la méthode de Jacques Bompard. On fait des travaux, comme ça, tout le monde ralentit.
Oui, on va y penser. Est-ce que nous en avons terminé avec ce débat d'orientation budgétaire? Donc, tu termines.
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire et de prendre acte du rapport sur la base duquel se tient le débat d'orientation budgétaire.
Donc, qui est contre le fait de prendre acte? Monsieur Mancorsini, monsieur Norbani. Si, il faut. Attendez, excusez-moi. Il faut voter pour le fait de prendre acte. C'est encore un énarque qui nous a pondu ce truc-là. Ça ne vaut en aucun cas pour l'opposition approbation des orientations budgétaires. C'est juste le fait de prendre acte.
Alors c'est après qu'elle votera le budget.
Le budget. Voilà. Là, vous pourrez voter contre des deux mains. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Je ne vous force pas. Voilà. C'est votre rôle. Allez, dossier numéro... Donc vous votez pour le fait de prendre acte. Merci. 2. État récapitulatif des indemnités perçues par les élus. Vu l'article L2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que chaque année, les communes doivent établir un état présentant l'ensemble des indemnités dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée d'une part en leur sein et d'autre part au sein de tout syndicat mixte ou pôle métropolitain et au sein de toute société d'économie mixte ou société publique locale, que nous n'avons pas de toute façon sur Camaré. Vu la fiche pratique, état récapitulatif annuel des indemnités perçues par les élus publié par la direction générale des collectivité locale, considérant que cet état doit être communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune, considérant que la DGCL recommande de présenter cet état en séance avec mention de ce document au procès verbal, notamment lors du débat d'orientation budgétaire qui intervient avant l'examen du budget, et demander au conseil municipal de prendre compte de l'état récapitulatif des indemnités perçues par les élus, tel que présenté ci-dessous. Voilà, donc pour l'année 2021, de Beauregard Philippe.
Virgule.
Oui, il manque un peu une virgule. 23 803,08 € annuels. William Diaz, maire adjoint, 9 801,24 €. Auriac Hervé, adjoint, 7 859,64 €. De même que Jean-Luc Dacosta, Sylvette Gilles, Jean-Michel Marlot, Antonio Miga, René Sauvera, Christine Winkelmann, Kevin Bank était conseiller municipal délégué, 228,30 €. Chantal Berger, conseiller municipal délégué, 2 283 €. Ainsi, Francine Deneux, conseiller municipal délégué, 2 739,60 €. Ainsi que M. Carazi, Mme Latar, Patricia Roche, Elvire Théoki et Christiane Vézian. Total des indemnités, 107 570,70 €. Voilà. Y a-t-il des questions ?
Oui.
Oui, M. Normani.
Je me disais, M. le maire, que dans le cadre de la solidarité, peut-être que si le budget de la mairie ne s'améliorait pas, il y aurait peut-être là une marge de manœuvre.
C'est un petit peu mesquin quand même.
Mais ça, c'est pas du tout de bon sens quand même.
Il faut quand même dire et répéter que ces sommes ne correspondent qu'à des indemnités, que beaucoup d'élus consacrent une très grande partie de leur semaine à la commune, de leur semaine et de leur week-end, notamment le week-end d'ailleurs. On l'a vu d'ailleurs tout récemment en ce qui concerne la solidarité avec l'Ukraine, et là je remercie les très nombreux élus qui se sont manifestés et qui sont venus prêter la main pour conditionner les dons, trier et conditionner les dons pour les Ukrainiens, ça je ferme la parenthèse. Donc voilà, je pense que ce ne sont que des indemnités par rapport à un travail important et un investissement important qui est fait, et voilà, je pense que tout le monde reconnaît que dans toutes les communes de France et de Navarre, on pourrait même à la limite au contraire donner un petit coup de pouce par rapport à tout ce que ça demande comme investissement, surtout dans nos communes rurales.
Ouais, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Non mais voilà,
mais ne me faites pas dire, je n'ai pas dit que les adjoints et les élus ne travaillent pas et ne s'investissent pas suffisamment. Je n'ai absolument pas dit ça.
Non mais voilà, ça me permet.
J'ai cru sous-entendre dans vos propos que peut-être vous alliez là-dessus. Donc rassurez-moi.
Ça me permettait de mettre en valeur leur investissement, qui est vraiment très important en ce qui concerne la municipalité de Canary. Alors je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Mancorsini, adopté à la majorité. Dossier numéro 3. Garantie d'emprunt à hauteur de 50% accordée à Grand Delta Habitat pour la construction d'habitations à loyer modéré.
Grand Delta Habitat va procéder à une opération de construction d'un ensemble immobilier composé de 8 logements individuels situés sur la commune de Camaret, 126 avenue Jean Moulin, en vue de réaliser une opération locative dénommée le Bosquet de la Dame. Pour financer cette opération, Grand Delta Habitat a sollicité auprès de la Caisse des dépôts et consignations les prêts suivants. Un prêt plus travaux pour un montant de 274 480 €, au taux de 1,1% sur 40 ans. Un prêt plus foncier pour un montant de 123 552 €, au taux de 0,9% sur 60 ans. Un prêt plais travaux pour un montant de 247 480 €, au taux de 0,3% sur 40 ans. Et un prêt plais foncier pour un montant de 123 552 €, au taux de 0,9% sur 60 ans. Les caractéristiques de ces quatre lignes de prêt sont détaillées dans le contrat de prêt numéro 130-669, ci annexé. La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 2298 du Code civil, vu la demande formulée par Grand Delta Habitat, vu le contrat de prêt numéro 130-669 en annexe signé entre Grand Delta Habitat, ci-après l'emprunteur, et la Caisse des dépôts de consignation relatifs aux prêts plus et plais, vu l'avis de la commission des finances en date due, il est demandé au Conseil municipal d'accorder une garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 769 064 euros souscrit par Grand Delta Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 130 669, constitué de 4 lignes du prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Et de préciser que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, Grand Delta Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant aux bénéfices de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. De s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges des prêts et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention relative à cette garantie d'emprunt et tous les documents s'y rapportant.
Le dossier suivant, c'est le même projet. On lira bien sûr la délibération, mais y a-t-il des questions ? Alors écoutez, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté de l'unanimité. Donc le dossier suivant, voilà, c'est garantie d'emprunt à hauteur de 80% accordé à Grand Delta Habitat pour la construction d'habitations à loyer modéré.
Voilà. Si vous êtes d'accord, je vais juste nommer les prêts. Un prêt PLS travaux pour un montant de 58 245 euros au taux de 1,1% sur 40 ans. Un prêt PLS foncier pour un montant de 69 282 euros au taux de 0,9% sur 60 ans. Et un prêt PLS complémentaire pour un montant de 100 489 euros au taux de 1,51% sur 40 ans. Il est demandé au conseil municipal d'accorder une garantie à hauteur de 80% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 228 016 euros souscrit par Grand Delta Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 130 666 constitué de 3 lignes du prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présentation de délibération. De préciser que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur Grand Delta Habitat dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant aux bénéfices de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. De s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges des prêts. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention relative à cette garantie d'emprunt et tous les documents s'y rapportant.
Merci. Les questions ? Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 5, dissolution de la Caisse des écoles, rapporteur Sylvette Gilles.
La commune de Camaret-sur-Aigue est équipée d'une caisse des écoles enregistrée sous le numéro de Sirette 26 84 01 45 20 0019. Or, cet établissement public communal n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes depuis plus de 3 ans. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article L212-10 du Code de l'éducation nationale autorisant le conseil municipal à dissoudre la caisse des écoles lorsqu'elle n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes depuis plus de 3 années, Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur la dissolution de la caisse des écoles, considérant l'avis de la commission des finances réunie le 21 mars 2022. Il est demandé au conseil municipal d'accepter la dissolution de la caisse des écoles. Sa clôture interviendra à compter du 1er avril 2022. Dit que l'actif, le passif et le solde de trésorerie du budget de la caisse des écoles seront intégrés dans le budget de la commune lors de sa clôture.
Oui, juste une question. J'ai de vagues souvenirs sur... Est-ce que c'est en rapport avec la coopérative, des choses comme ça? Les coopératives scolaires, ça n'a pas de rapport?
Non, non.
Non. Mais ça servait à quoi ce caisse-là ?
La coopérative, c'est une caisse privée.
Ah oui, d'accord.
En fait, la caisse des écoles, c'est aujourd'hui ce que j'expliquais en commission des finances. Aujourd'hui, les dotations de la commune pour les écoles, on calcule la dotation, on inscrit au budget ce qu'on fera dans ce que vous voterez le 5 avril, le montant avec un forfait de temps par élève et donc un total par école. Et en fait, désormais, les écoles commandent et la commune paye. Avant, il y avait une caisse spécifique.
Et vous tapiez écoles. Dans la caisse au fur et à mesure que vous faisiez des.
Voilà, mais ça n'a rien à voir avec la caisse des coopératives. D'accord. Les écoles gardent leur caisse. Celles qui ont une caisse de coopérative, là, la conservent. Ça, c'était le ce qui se.
Maintenant, vous présentez les factures et après, vous, ça vous fait un montant sur l'année que vous divisez par
l'endroit. C'est ce qu'on fait. C'est la mairie qui honore les commandes des écoles.
Mais tout simplement. Au lieu
non. Alors je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 6, approbation d'une convention d'enlèvement des véhicules pour stationnement gênant ou en état d'épave situé sur le domaine public, rapporteur Jean-Luc Dacosta.
Conformément au Code général des collectivités territoriales, à l'article L511-1 du Code de sécurité intérieure et aux articles L325-1 à L325-13 du Code de la route, la fourrière relève de l'autorité du maire qui en désigne le gardien sur la liste des gardiens agréés par le préfet si le local ou terrain appartient à la commune ou si elle en dispose. En l'absence de terrain communal ou de local à disposition, il est possible d'établir une convention d'enlèvement des véhicules en stationnement gênant ou en état d'épave situé sur le domaine public avec un prestataire disposant d'un agrément préfectoral en tant que gardien de fourrière. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer une convention d'enlèvement des véhicules en stationnement gênant ou en état d'épave situé sur le domaine public avec monsieur Tride, représentant la société d'exploitation Magicoto, dont le siège se situe à Piolin 84 420 RN7 Zac de Crépon Sud et disposant d'un agrément préfectoral en tant que gardien de fourrière du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2025. D'autoriser monsieur le maire à engager des dépenses afférentes aux frais d'expertise pour le classement des véhicules non réclamés par leur propriétaire conformément au texte en vigueur.
Merci. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 7. Convention municipale de coordination de la police municipale et forces de sécurité de l'État. Modification de la convention initiale. Rapporteur Jean-Luc Dacosta.
Monsieur le maire expose que les missions de police municipale ont été définies par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. Cette même loi prévoyait également l'établissement d'une convention municipale de coordination entre les forces de sécurité et l'État et la police municipale. La présente convention de coordination a été signée le 2 mai 2019 pour une période de 3 ans. La convention arrivant à échéance, il convient de conclure une nouvelle convention établie conformément aux dispositions de l'article L512-4 du Code de sécurité intérieure, précisant la nature et les lieux d'intervention des agents de la police municipale. Elle déterminera également les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'État. La nouvelle convention a fait l'objet d'une actualisation conformément à la loi numéro 2021-646 du 25 mai 2021, notamment l'article 5 du Code de santé publique relative aux personnes en état d'ivresse dans les lieux publics. La présente convention intègre également les nouvelles capacités de contrôle offertes à la police municipale par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système national des permis de conduire, ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière. Pour l'application de la Convention, les forces de sécurité de l'État sont la Gendarmerie nationale. Le responsable des forces de sécurité de l'État est le commandement de la communauté de brigade territorialement compétent, en l'occurrence le commandant de la communauté de communes de brigade d'Orange. Monsieur le maire propose d'approuver la nouvelle convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévoyant la mise en place d'une coopération renforcée entre la police municipale de Camaret et les forces de sécurité de l'État. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de cette convention, d'autoriser monsieur le maire à signer ainsi que tous les documents afférents à ce dossier.
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Normani.
Oui, juste savoir s'il y a des différences fondamentales entre les deux conventions.
Non.
Il n'y a pas beaucoup de différences. Là.
Pardon.
La seule différence, c'est que nos policiers municipaux, maintenant, peuvent directement intervenir quand il y a une personne qui est interpellée pour un état d'ivresse ou en conduite d'un état d'ivresse, peuvent l'emmener directement à l'hôpital sans passer par la case gendarmerie. Et voilà.
Et je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 8, communauté de communes Aigouez en Provence, rapport annuel du service commun des autorisations du droit des sols 2021, rapporteur Christine Winkelmann.
La loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Allur, prévoit la fin de la mise à disposition gratuite des services de l'État pour l'instruction des autorisations du droit des sols, ADS, depuis le 1er juillet 2015. Pour pallier à ce désengagement des services de l'État, la communauté de communes a créé un service commun sur le fondement de l'article L5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales, qui a pour l'objet de mutualisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme avec les communes par voie conventionnelle. Ce service commun est opérationnel depuis le 1er avril 2015 et il a été décidé de la reconduire pour la nouvelle mandature par délibération 2020-115 du 24 septembre 2020. Puis par délibération 2020, délibre 080 du 18 novembre 2020, la commune de Camaret-sur-Aigue a décidé de maintenir son adhésion au service commun des autorisations du droit du sol, des sols. Conformément à l'article 4, des conventions signées entre les communes et le service commun des autorisations du droit des sols, un rapport annuel du service rendu doit être produit. Ce rapport a été présenté devant le conseil communautaire le 27 janvier 2022 et a été transmis à la commune de Camaret-sur-Aigue le 11 février 2022 en vue de son adoption par le conseil municipal. La commune de Camaret-sur-Aigue, adhérente à ce service, est donc appelée à approuver le rapport annuel du service commun d'instruction des autorisations du droit des sols pour l'année 2021. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le rapport annuel du service commun d'instruction des autorisations du droit des sols pour l'année 2021. Y a-t-il des questions ?
Merci. Eh bien, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 9. GRDF. Convention autorisant l'implantation d'un équipement de type concentrateur de télérelevé des compteurs GRDF des particuliers présents sur Camaret-sur-Aigue. Rapporteur Hervé Auriac.
GRDF gère en France le réseau de distribution de gaz qui regroupe l'ensemble du réseau assurant l'acheminement du gaz vers les consommateurs. Considérant la nécessité d'améliorer la qualité de télérelève et de permettre la relève automatisée en tout point de la commune des compteurs gaz du réseau de GRDF distribution publique. Afin de mener à bien ce projet et après étude par les services de GRDF pour la localisation du meilleur site d'implantation du concentrateur de télérelève, équipement qui communique avec les compteurs, récupère les données de consommation et renvoie ces dernières à GRDF, il convient de procéder à la pose de cet équipement portant la référence 308-039 sur un pylône d'éclairage du motobol. Dans le cadre de la présente convention, il est prévu une redevance annuelle pour l'hébergement du concentrateur entre la commune et Enedis pour un montant qui s'élèvera pour 2022 à 46,06 euros hors taxe. Oui, tout comportement à prendre. Vu le projet de convention établi à cet effet par GRDF, il est demandé au Conseil d'autoriser M. le maire à signer la convention autorisant GRDF à effectuer les travaux relatifs à l'implantation du concentrateur de télérelève, équipement qui communique tête à tête. Cet équipement portant la référence sera installé sur un pylône d'éclairage. Et de solliciter et percevoir chaque année la redevance annuelle correspondante pour l'année 2022. Cette redevance s'élève à 46,06 € hors taxe. Et vous avez les conventions qui suivent.
Des questions ?
Oui, monsieur le maire.
Monsieur Normani.
Très sincèrement, c'est un peu, ça me fait rigoler, hein, 46,06 € annuel. Qu'est-ce qui fixe ce montant-là ? Pourquoi 46,06 €? Pourquoi pas 2 000 €? Pourquoi pas... Parce que c'est curieux comme montant. 46 €, enfin, je sais pas, 46 €...
Le calcul légal.
Comme ça coûte plus
les énarques savent si bien les faire.
Ça coûte plus cher à calculer que ce que ça rapporte.
Ah ben oui, c'est peut-être pas faux, oui. Un jour ça sera supprimé peut-être, mais là pour l'instant, on s'y tient. Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Alors, il y a les déclarations d'intention d'aliéner et les décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet ? C'est pas pour ça qu'on n'a pas travaillé.
À titre uniquement de curiosité, qu'est-ce que c'est que le COE ou le CO?
Le CAUE. Alors, c'est le Centre d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement. C'est un bureau d'études parapublic qui dépend du conseil départemental et dont la fonction est de faire notamment des études, de prêter assistance, notamment aux communes pour tout ce qui est, pour tous leurs projets d'équipement public.
C'est un montant.
Oui, il y a aussi un rôle de conseil aux particuliers puisque chaque commune a loisir d'accueillir dans le cadre d'une permanence un architecte du CAUE, un ou une architecte du CAUE. Donc c'est aussi un service qui est ouvert aux administrés, aux particuliers.
Oui, d'accord, c'est le montant d'une adhésion, ok, parfait.
Voilà, c'est une adhésion voilà, qui nous permet d'avoir accès plus facilement à un certain nombre de renseignements et d'assistance. Même si, à partir d'un certain niveau, les études que nous leur demandons deviennent payantes. Oui, monsieur Savin.
Il y a une rumeur qui circule actuellement comme quoi Intermarché déménagerait, ce qui inquiète pas mal de personnes dans mon quartier.
Alors, que vous dire dessus ? C'est un projet, donc, comme vous vous en doutez, qui est privé. Je ne peux pas parler à la place des propriétaires. Par contre, ce qui est de l'autorité publique, c'est que les municipalités, les diverses municipalités qui se sont succédées, ont vu les dirigeants d'Intermarché demander à pouvoir s'agrandir. Parce que, en termes de stationnement, ça vous l'avez tous constaté, en termes de surface de stockage, et même en termes de surface de vente, ça fait de nombreuses années que notre Intermarché, là, est trop petit. Donc ça fait des années qu'ils cherchent un autre site, toujours sur la commune. Donc, ce que je peux vous en dire, moi, en tant que maire, même si à ce jour nous n'avons pas de permis de construire ou de quoi que ce soit de déposer officiellement en mairie, c'est effectivement dans l'air que Intermarché va essayer de déménager, même si ça fait des années que de toute façon ils cherchent à le faire.
Mais vous comprenez quand même l'inquiétude des personnes qui se déplacent à pied tous les jours pour aller faire leurs courses.
C'est vrai.
Je pose la question, comment ils vont aller là-bas faire leurs courses?
C'est vrai. Bon, il y aura... Alors, il déménagerait du côté de la route départementale en allant sur Sérignan.
D'accord, merci.
De l'autre côté.
Excusez-moi, là, mais... La zone de bruit. Oui, d'accord. Non, mais c'est
la zone de bruit. Alors, en ce qui concerne la zone de bruit, je rappelle que le PEB n'empêche pas l'implantation de l'activité économique.
D'accord. Non, juste pour vous dire que ce que je ne comprends pas, c'est que du terrain, il y en avait à côté.
Attendez, excusez-moi, là, il y a du bruit.
s'il vous plaît. Monsieur Bancorsini.
Ce que je ne comprends pas, c'est que du terrain, il y en avait à côté, là. Puisqu'il y a eu l'implantation...
C'est juste. Mais encore une fois, je ne vais pas m'immiscer dans un dossier tout à fait privé. Nous avons affaire là à des relations entre propriétaires privés. Ils se sont entendus ou pas. Voilà, on en est là. Nous, on ne fait que constater...
Non, parce que vous n'avez pas pu influencer, parce que vous avez dit tout à l'heure, les différentes municipalités qui se sont succédées n'ont pas pu répondre à la demande. Mais est-ce que
c'est... C'est pas tout à fait ça. C'est que... il n'y avait pas forcément, par exemple au titre de l'urbanisme, au titre du PLU, mais il n'y avait pas forcément la possibilité pour Intermarché de déménager plus tôt. Et là, maintenant, ils l'ont peut-être.
Juste une dernière chose, parce que j'avais vaguement entendu dire, mais moi je n'aime pas les rumeurs, parce que je ne sais pas si ça s'est posé, mais à un moment donné, il était question d'implanter une moyenne surface autour de Sérignan. Est-ce que ce n'est pas pour répondre à cette question-là qu'ils vont de l'autre côté de la rue pour être plus proche de Sérignan?
Non, c'est simplement parce qu'ils ont enfin la possibilité, ils ont enfin la trouvé, peut-être, encore une fois, c'est pas officiel, une possibilité de trouver plus de places de stationnement, plus de surface de vente, plus de surface de stockage. C'est tout. C'est pas la proximité de Sérignan qui est visée particulièrement. Non, je pense pas.
Je voulais seulement faire remarquer, mais c'est une remarque qui est tout à fait personnelle et qui est... C'est que dans un moment où il va falloir moins utiliser la voiture, on va encore se mettre un peu plus loin, comme ça on ira tous en voiture faire nos courses.
Et les voitures seront électriques ou à l'hydrogène?
Là, c'est une mauvaise question, parce que les voitures électriques, c'est pas la solution. L'hydrogène peut-être.
Mais je suis peut-être d'accord avec vous, même si je suis pas un spécialiste, mais il y a peut-être d'autres solutions que l'électrique, le tout électrique. Mais encore une fois, je vous le dis à vous, comme je le disais à Madame Thibault, à Camaré, vouloir se dispenser de la voiture dans une commune qui est une commune pavillonnaire, c'est très 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 illusoire. Même si on préférerait qu'il y en ait moins, bien entendu, mais voilà, il y a quand même une réalité, un principe de réalité qui est incontournable. Même si par ailleurs, on va faire tout ce que l'on pourra pour améliorer la circulation en vélo. On y réfléchit également. Je vous en remercie. Y a-t-il d'autres questions? Parce que sinon, nous allons peut-être annoncer la date du prochain conseil municipal. Monsieur Bancorsini.
J'avais des questions, mais en plus, c'était très important. Je sais que la loi vous autorise à nous convoquer au conseil municipal 5 ou 6 jours avant la date du conseil. C'est la loi, mais je pense que dans le bon sens, et je sais que votre parti, notamment, aime bien parler du bon sens, serait peut-être préférable, effectivement, comme ce soir, qu'on fixe la date, au moins, quand il n'y a pas de projet d'urgence, après, au moins 3 semaines avant. Je ne vous cache pas que ce soir, j'ai failli ne pas être au conseil. J'étais à Genève hier, parce que j'avais de l'affaire. Bon, je suis rentré presque un peu précipitamment, parce que si je n'avais pas été au conseil ce soir, j'étais disqualifié. Hein. Parce que ça faisait 3 fois que je manquais.
Ah non, mais alors là-dessus, non, vous n'ayez aucune inquiétude là-dessus. D'abord, la loi n'est pas tout à fait celle que vous pensez être pour les conseillers municipaux. Et en ce qui me concerne, je tiens compte, quelle que soit la tendance, quel que soit le positionnement des élus, de leurs contraintes personnelles et professionnelles. Et je ne fais jamais reproche à quelque élu que ce soit de manquer, même si c'est 3 fois de suite.
Quoi qu'il en soit, manquer un conseil, pour moi, c'était une...
Ah, mais c'est tout à votre honneur. Alors, ce que nous faisons quand même, et toutes les communes ne le font pas, c'est que de conseil en conseil, on annonce une date prévisionnelle, ce qui permet déjà de vous organiser. Donc là, la prochaine date du conseil municipal, enfin le prochain conseil municipal, c'est le 5 avril, avec le vote du budget primitif, notamment. Voilà. Et bien sûr, ces bonnes paroles, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée.